François Bernard.
20h10 à Paris, suite de la journée que consacre RFI donc à cette rivalité sunnite-chiite. Il y a un an, tout juste, l'organisation État islamique proclamait le califat sur un vaste territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie. Cette organisation radicale, sunnite, réclame l'allégeance des musulmans du monde et combat vigoureusement la minorité chiite. L'antagonisme entre les deux communautés puise ses racines dans la bataille de succession au prophète Mahomet, mais se cristallise véritablement dans la lutte d'influence qui oppose au Moyen-Orient l'Iran chiite et l'Arabie saoudite qui est sunnite. Toute la journée, donc, RFI a tenté de décrypter les raisons et les enjeux de la rivalité entre les deux communautés. Ce soir, on essaie de discerner la part du religieux de celle du politique dans la guerre qui donc embrase aujourd'hui cette région du monde. Alors, chiite, sunnite, fracture religieuse ou lutte de pouvoir, on va en parler avec deux invités. Je vous présente Fatia Dazi Eni, qui est politologue spécialiste de la péninsule arabique Golfe Persique et auteur, chercheur à l'INSERM et enseignante à l'IEP de Lille, auteur d'un livre qui s'appelle Monarchie et Société d'Arabie, le temps des confrontations. C'est aux presses de Sciences Po. Bonsoir à vous, Fatia Dazi Eni.
Bonsoir.
Alors, notre deuxième interlocuteur est en route. Il doit être bloqué dans les embouteillages. On va patiemment, et avec vous, Fatia Dazi Eni, attendre qu'il se présente dans notre studio pour évoquer cette problématique. On pourrait peut-être se demander, et c'est finalement le cœur de notre question, quelle est la part dans ce conflit chiite-sunnite au Proche-Orient des motivations religieuses et celle de la volonté, on va dire, de suprématie politique ou géopolitique, selon vous?
Oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé à m'interroger sur tout ce qui a trait au sectarisme dans cette région, d'abord, c'est pas nouveau, c'est vrai que depuis la révolution islamique d'Iran en 1979, ça a été quand même la première pierre d'achoppement entre la rivalité géopolitique et religieuse entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, cette rivalité est à son summum. Et il est vrai que la quête pour l'influence politique, voire religieuse, mais surtout politique, est quand même l'essentiel de ce qui oppose aujourd'hui les logiques d'influence Arabie Saoudite versus Iran. Et la date butoir qui a fait que ce sectarisme est devenu extrêmement important, c'est 2003, la chute du pouvoir de Saddam Hussein et le boulevard donné à l'Iran par les États-Unis pour influer et avoir cette politique quand même d'influence, d'hégémonie en Irak. S'en est suivi ensuite, bien sûr, il y avait évidemment le proxy Hezbollah, qui est quand même le parti libanais chiite qui a été créé par l'Iran en 1982. Et depuis 2011, la scène syrienne est vraiment le théâtre de la confrontation de ces logiques d'influence.
Alors, on va revenir bien sûr longuement sur ces éléments, mais est-ce qu'on doit parler d'antagonisme millénaire, comme c'est parfois le cas, ou d'hostilité comme un phénomène plus récent, selon vous?
Oui, non, c'est un phénomène assez récent, parce que l'Iran et l'Arabie saoudite n'ont jamais été aussi opposés. Enfin, par le passé, ils se sont bien entendus, l'Iran du Shah d'Iran, par exemple. C'est pas que l'Arabie saoudite soit opposée viscéralement à l'Iran et que l'Iran soit viscéralement opposé à l'Arabie saoudite. C'est vrai que les enjeux régionaux, souvent malheureusement précipités par la politique américaine, font qu'aujourd'hui, on est dans une confrontation quasi ouverte. Et puis, vous l'avez dit en début d'émission, il y a cette organisation d'État islamique qui s'en prend, alors non seulement aux chiites, mais à tout ce qui n'est pas comme eux. Ils s'en prennent aussi beaucoup aux sunnites. Ils s'en prennent à d'autres minorités, les yézidis, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran se pose un petit peu comme le fer de lance de la bataille anti-Daesh, anti-organisation islamique. C'est pour ça que les Américains, effectivement, dans la lignée de l'accord qu'ils veulent conclure avec l'Iran, aimeraient laisser l'Iran quand même en partie régler cette question.
Bien. Alors, je signale, et c'était l'objet de votre petit trouble en fin d'intervention, que Clément Terme vient tout juste de rentrer dans notre studio. Merci de nous rejoindre, Clément Terme. Vous êtes chercheur associé à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un livre qui a pour titre « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 ». C'est aux presses universitaires de France, c'est ça? Et vous revenez tout juste, me dit-on, du Pakistan, qui est aussi un de vos terrains de recherche. Merci d'être là. Alors, on se posait la question avec Fatia Dazieni. Vous allez peut-être pouvoir en donner une approche, une version de ce qui pouvait différencier le religieux du politique dans la rivalité sunnite-chiite qui actuelle.
Ben en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le rôle des acteurs politiques qui instrumentalisent le religieux. Par exemple, au Pakistan, on le voit, la minorité chiite souffre de problèmes de plus en plus graves de discrimination depuis que l'influence de l'Arabie saoudite est importante au Pakistan à la fin des années 70. Donc il y a un lien entre influence politique d'un État qui utilise le religieux pour augmenter son soft power auprès de la population locale. Et comme l'idéologie wahhabite, qui est le centre de l'idéologie de l'Arabie saoudite, provoque en fait une intolérance vis-à-vis de la minorité chiite. Et avant, il n'y avait pas de discrimination contre les chiites au Pakistan. Donc c'est vraiment un phénomène nouveau qui est lié aux politiques.
D'accord, l'instrumentalisation du religieux par le politique. Alors vous êtes tous les deux spécialistes d'une... de parties du monde différentes où la domination religieuse est évidente dans celle que vous observez, Fatia Dazieni. Comment les sunnites, d'une manière générale, si c'est possible, considèrent les chiites? Qu'est-ce qu'ils en disent d'une manière globale?
Bon, on va se concentrer quand même essentiellement sur l'Arabie saoudite qui pratique l'orthodoxie la plus poussée du sunnisme, puisque c'est l'école Hanbalite. Et ils suivent ce prêcheur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a pactisé avec l'ancêtre des Al-Saoud pour ensuite... Bon, je raccourcis un peu, mais voilà.
L'histoire est longue.
C'est-à-dire que les Al-Saoud, pouvoir sédentaire, s'allient aux religieux pour, à partir de la terre d'appel, donc la dawa, répandre le message islamique dans son orthodoxie la plus poussée. Donc l'idéologie Hanbalo-Wahhabite, effectivement, considère les chiites comme des rafidines. Ils sont à rejeter, ils ont épousé une mauvaise voie, et donc ils rejettent en bloc le chiisme. D'accord. Et il faut voir que l'organisation de l'État islamique s'inspire totalement de cette idéologie. Ce qui fait qu'on est dans une configuration aujourd'hui terrible pour le pouvoir al-Saoud, parce qu'il est pris au piège de sa propre radicalité. Puisqu'aujourd'hui, le royaume d'Arabie saoudite est menacé par l'organisation de l'État islamique. Il y a eu des attentats contre des mosquées chiites dans la province orientale au mois de mai. Et il y en a eu un très spectaculaire à Koweït et qui a été fait par un Saoudien de l'État islamique. Donc aujourd'hui, les Al-Saoud sont véritablement... Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette rivalité Iran-Arabie saoudite, les deux sont menacés par l'organisation de l'État islamique. Mais les deux continuent à s'opposer et à se rivaliser plutôt que d'essayer de coopérer. Il pourrait y avoir un terrain de coopération entre les deux. Mais comme je partage parfaitement ce que dit Clément Terme, c'est totalement de l'instrumentalisation politique à des fins religieuses.
Alors Clément Terme, comment les chiites, eux, considèrent-ils les sunnites?
Alors il y a une très grande diversité de points de vue.
Essayez de donner un petit... aperçu.
Donc, par exemple, les frères musulmans sont perçus plutôt positivement à Téhéran. Cela explique pourquoi, dans la première phase du printemps arabe, l'Iran a soutenu la révolution en Égypte, par exemple. Tariq Ramadan a une émission hebdomadaire sur la CNN iranienne Press TV. Donc, il y a vraiment une coopération, disons, une connivence entre l'islam politique des frères musulmans et l'islam politique roméniste, donc de l'Iran. Par contre, s'agissant des salafistes et des extrémistes sunnites comme Daesh, Al-Qaïda ou les talibans, là, c'est ce qu'on nomme les takfiri, donc les excommunicateurs, donc ceux qui disent qui est musulman et qui ne l'est pas. Donc là, en Iran, il y a vraiment une dénonciation violente qui est en réaction de ce discours anti-chiite. Mais il y a toujours la volonté de la part de la minorité chiite, en mon sens, d'une plus grande ouverture et d'un plus grand dialogue vis-à-vis des autres sectes de l'islam. Puisqu'ils sont une minorité, donc ils sont largement discriminés, à part en Iran où ils sont majoritaires et dans quelques pays où ça se passe un peu mieux. Et c'est pourquoi, à mon sens, on a frappé le Koweït récemment, puisque les chiites au Koweït ont une situation plutôt favorable par rapport à d'autres États comme le Bahreïn, par exemple. Mais l'Iran, lui... ce qu'il fait par rapport au monde sunnite, c'est d'essayer de dépasser l'antagonisme chiite-sunnite par l'axe de la résistance, le discours contre Israël. Parce que face à l'ennemi sioniste, qu'on appelle l'ennemi sioniste en Iran, on peut faire l'unité du monde musulman. Par contre, ce discours ne fonctionne de moins en moins depuis la guerre civile en Syrie, où là, le Hezbollah, qui était vraiment le fer de lance de ce discours, a un rôle de plus en plus sectaire face à l'opposition modérée syrienne et aux autres composantes de l'opposition syrienne qui défient le régime de Bachar el-Assad, qui était quand même au centre de la stratégie régionale de la République islamique depuis plus de 35 ans.
C'est vrai, c'est intéressant. Il y a 10 ans, on évoquait le seul conflit au Proche-Orient, celui qui opposait Israël au monde arabe. On en parle moins, en tout cas. C'est devenu quoi? Un facteur de moindre importance, où ça reste essentiel dans la donne de la région?
Non, depuis le déclenchement des printemps arabes, le grand absent du débat public dans cette région, c'est effectivement le conflit israélo-palestinien. On ne parle plus de la cause palestinienne aujourd'hui, même si ça reste bien sûr très présent, c'est absolument plus d'actualité.
Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de ces événements de l'histoire récente qui pouvaient être considérés comme des facteurs déterminants de l'hostilité entre chiites et sunnites. Fatia Daziani évoquait la chute de Saddam Hussein, vous l'avez aussi mentionné. Est-ce que c'est le seul ou il y en a d'autres qui auraient été déterminants?
Je pense qu'il y a aussi l'émergence d'Al-Qaïda et du terrorisme, du radicalisme extrémiste sunnite. Les talibans aussi, c'est un autre exemple en Afghanistan, où les Hazaras sont persécutés, on en parle moins. Au Pakistan, également, la minorité chiite est persécutée, bien avant ce qui se passe au Moyen-Orient. On pourrait même dire que le Pakistan est un cas d'école, puisque le général Zia, qui a pris le pouvoir en 1977, est à l'origine des discriminations contre les chiites ou même des persécutions et des assassinats de chiites aujourd'hui au Pakistan. Donc c'est une situation qui existe depuis près de 40 ans dans le cas du Pakistan. Donc ces violences sectaires sont une réalité dans la région. Après, le problème, c'est est-ce qu'il faut un traitement religieux ou politique? Parce que, bien sûr, c'est une instrumentalisation du religieux par le politique, mais c'est aussi l'idéologisation de la religion. Et là, c'est là où se pose le problème. Quel rôle jouent les mollahs, les oulémas dans ce discours de radicalité? Et est-ce qu'on peut compter sur des modérés, entre guillemets, à la fois du côté des sunnites et des chiites, pour parvenir à surmonter cet antagonisme?
Alors, je pose la question à Fatia Daziani. Côté sunnite, est-ce qu'on peut compter sur les modérés pour régler la crise, on va dire?
La plupart des sunnites, malheureusement, sont un peu pris en otage par l'idéologie sectaire, la politique sectaire quand même, qui est effectivement largement pratiquée par le Royaume d'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Saoudiens, de par leur positionnement sur la Syrie, etc., s'opposent aussi un petit peu en libérateur du monde sunnite contre la menace chiite, parce que c'est aussi comme ça que c'est perçu. Il y a, par exemple, l'instrumentalisation de l'intervention de l'Arabie saoudite à la tête d'une coalition au Yémen est expliquée comme ça, alors qu'on sait très bien que le Yémen n'a jamais connu de sectarisme. Zaïdisme, qui est une variante très éloignée du chiisme, et pas du tout proche du chiisme du haut des Cimins en Iran, est beaucoup plus proche, par exemple, de l'islam sunnite. Et au Yémen, on peut prier quand on est zaïdite dans une mosquée sunnite et quand on est sunnite dans une mosquée zaïdite. Donc ça n'existait pas. Donc c'est vrai que la rhétorique un petit peu iranienne qui a fait de la surenchère sur le Yémen en ayant un discours un petit peu de soutien aux rebelles houthis qui sont combattus par l'Arabie saoudite a mis un peu le feu aux poudres. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment l'Iran s'est senti, enfin vraiment, on lui a servi sur un plateau cette question-là. Mais en aucun cas, on peut comparer le rôle de l'Iran au Yémen comme il est effectivement en Irak, au Liban ou en Syrie. Et c'est ça qui pose problème. Alors certes, les chiites sont victimes, etc. Je suis d'accord. Mais la politique hégémonique de l'Iran, elle est là. Elle existe et elle explique vraiment cette réaction des sunnites. Et en même temps, cette réaction, au départ, très favorable au conflit qu'a mené l'Arabie saoudite au Yémen. Aujourd'hui, il y a des critiques qui s'élèvent de plus en plus parce que malheureusement, le Yémen est dévasté.
Clément Terme, alors, l'hégémonie de l'Iran dans la région est un des facteurs du problème?
C'est un discours qui émane des pétromonarchies sunnites qui dénoncent ce qu'ils appellent l'empire iranien. Mais je ne pense pas que l'Iran ait construit un empire sur des États en décomposition, qui sont les États arabes aujourd'hui. Le chaos au Yémen, le chaos en Syrie, le Liban qui est toujours aussi fragile. Donc c'est un empire très très fragile sur des sables mouvants. Et je pense que c'est surtout un moyen pour les pétromonarchies du Golfe de ne pas régler leurs propres problèmes internes. Donc c'est vrai que l'Iran peut avoir un rôle déstabilisateur. notamment, je pense à la Syrie, mais par exemple en Irak, c'est clair que la position de Téhéran est défendue par son opinion publique parce qu'il y a une crainte de contamination de Daesh. Le grand risque au Moyen-Orient aujourd'hui n'est pas l'Iran, c'est Daesh. Et pour l'Iran, le défi, c'est de préserver la frontière avec l'Irak de l'influence de Daesh et de même maintenant du côté afghan. Parce que le grand danger pour l'Iran, c'est la connexion et l'extension de Daesh vers la région Afghanistan-Pakistan. Et là, l'Iran serait pris en tenaille entre des extrémistes. Et c'est pourquoi l'Iran a repris langue, par exemple, avec les talibans, qui sont un ennemi historique de l'Iran. Donc on voit même des phénomènes de recomposition face à l'extension de Daesh, et même des nouvelles passerelles entre des sunnites quand même très radicaux comme les talibans et l'Iran chiite.
Alors, puisque enfin, la politique d'influence de l'Iran en Irak ne date pas de l'établissement de l'État islamique, c'est pas vrai. Depuis la chute de Saddam Hussein, l'Iran est très clairement le pays le plus influent en Irak. Ça, c'est absolument indéniable. C'est pas qu'un discours de pétromonarchie. Je suis désolé.
Ça, c'est un fait.
C'est un fait avéré. Hein.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la nuance que j'ai, c'est de dire que l'Iran est responsable des changements dans la région. Ce qui est faux, c'est une position réactive. Oui, c'est les États-Unis qui ont mis les chiites au pouvoir.
On est d'accord.
Donc voilà, il faut pas. C'est là où c'est un discours des pétromonarchies.
Bon, alors peut-être qu'on peut évoquer le rôle que joue l'Occident dans cette division religieuse entre chiites et sunnites.
Mais je dirais même que les États-Unis sont responsables de l'émergence de Daesh. Ça, c'est clair.
Clémentaire.
Alors là, moi, je prendrais, pour éclairer les auditeurs, les discours complotistes là, qui sont toujours intéressants de la région. Donc au Pakistan ou en Iran, c'est clair que pour eux, il y a une complicité de l'Occident. Alors ils prennent pour exemple le fait que dans les zones tribales pakistanaises, par exemple, les drones parviennent très bien à éliminer les chefs talibans, le TTP, les talibans pakistanais, alors que c'est vrai que Daesh a des grands succès militaires et il n'y a pas d'intervention très précise, en tout cas.
Enfin, moi, j'allais pas sur ce discours complotiste, mais l'invasion américaine a favorisé l'État islamique en Irak avec Abu Musab al-Zarqawi en 2004, ça c'est des faits, et qui a rompu ensuite, qui était pro-Al-Qaïda, bien sûr, et qui a rompu ensuite, et qui est devenue l'organisation de l'État islamique beaucoup plus tard. Oui. Donc c'est un fait avéré.
Mais ça, c'est ces théories, en fait, pour compléter, parce que je suis entièrement d'accord,
oui, c'est intéressant. Hein,
viennent en fait du soutien américain aux Moudjahidines, ce qu'on appelait les Moudjahidines afghans dans les années 80. Ben Laden était l'homme de la CIA dans les années 80. Moi, j'arrive de cette région, j'étais récemment à Peshawar. C'est très difficile pour les populations locales, pour expliquer hein, les théories conspirationnistes, de comprendre les changements d'alliance de l'Occident dans la région. Un jour, on s'allie avec les Moudjahidines. Après le 11 septembre, ils deviennent l'ennemi juré de l'Occident, alors qu'ils étaient les fers de lance du monde libre contre le communisme en Afghanistan. Donc c'est ça qui explique tous ces discours mettant en exergue le rôle ambivalent de l'Occident.
Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, les pétromonarchies aujourd'hui se rendent compte que les États-Unis pactisent avec l'Iran et donc se retournent contre leur partenariat stratégique depuis, pour les Saoudiens, le fameux Quincy Pact.
On pourrait vous écouter pendant des heures, mais l'émission est déjà terminée. J'en suis désolé parce que j'aurais aimé la poursuivre un peu plus longtemps. Merci en tout cas à tous les deux, Fatia Daziemi, politologue. Je rappelle le titre de votre livre, Monarchie et Société d'Arabie, le temps des confrontations, c'est aux presses Sciences Po. Et Clément Terme, qui est lui chercheur associé à l'EHESS, qui a écrit Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 aux éditions Presse universitaire de France. Voilà. Merci également à Florence Ponce et à Cécile Périard qui ont préparé et réalisé cette émission. Gérard Perrault à la documentation. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes celles que RFI a consacrées à cette question sur la rivalité chiite-sunnite dans un dossier spécial sur notre site RFI.fr. Et durant la grille d'été jusqu'en septembre, pas de débat sur RFI à 19h40 heure de Paris. On se retrouve le lundi 31 août. Bonsoir à tous.